Place Info.
Bonsoir à tous. L'Amérique m'inquiète, c'était déjà il y a plus de 20 ans le titre d'un livre de Jean-Paul Dubois. Et 20 ans plus tard, cette Amérique de Donald Trump n'en finit pas de nous inquiéter avec ses émeutes, cette haine raciale qui semble revenir régulièrement et de manière qui semble inéluctable. Oui, l'Amérique nous inquiète, mais elle est aussi capable de nous émerveiller, de nous rendre envieux, nous, petits Français, quand on voit qu'elle est capable d'envoyer des hommes dans l'espace. C'est de tout cela dont nous allons parler ce soir avec les informés. Bonsoir Armelle Le Goff.
Bonsoir.
Directrice de rédaction de 20 minutes avec nous également ce soir. Robert Namias, bonsoir Robert.
Oui, bonsoir.
Journaliste, écrivain, ancien directeur de l'information de TF1. Daïko Duy, bonsoir à vous.
Bonsoir tout le monde.
Journaliste à France Info TV. Bonsoir François Hernandwein.
Bonsoir à tous.
Toujours au téléphone, hein, visiblement, ce reporting ne marche pas. Rédacteur en chef à La Croix. Allez, on est ensemble jusqu'à 21h. Ambiance à Minneapolis la nuit dernière. On a l'impression de revivre toujours la même histoire aux États-Unis depuis les années 50 et cette lutte pour les droits civiques. Ces éruptions de violence qui ont souvent comme origine la mort d'un Afro-Américain tué par un blanc, puis émeute, puis répression. Comment se fait-il que les États-Unis n'arrivent pas à sortir de ce cycle infernal? Vous avez une explication à nous donner, Armelle Le Goff?
Une explication, non, il y a une violence endémique, une tradition de la violence aux États-Unis qui persiste et un racisme systémique aussi qui perdure et sur lequel il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment en 2015 avec les polices locales. On a pensé évidemment que l'élection d'Obama permettrait d'apaiser ces tensions. Mais elle ne s'apaise pas et là, ces émeutes interviennent quand même dans un climat de tension assez paroxystique. Quels sont-ils ces éléments de tension? Donald Trump lui-même, qui aujourd'hui dans une stratégie d'attaque tous azimuts, on le voit, contre la Chine, les organisations internationales, les réseaux sociaux. L'autre élément de tension, c'est évidemment le fait qu'on soit en année électorale et toutes les prises de position, les débats, les affaires sont analysées à l'aune de cette échéance et forcément cela crée un climat qui n'est pas à l'apaisement. Les États-Unis sont aussi évidemment aux prises avec une crise sanitaire qui est sans précédent et qui a fait déjà 100 000 morts, dont beaucoup hein, parmi les minorités et parmi la communauté afro-américaine. Et puis, c'est ce dernier élément de tension, le meurtre de George Floyd, qui ravive ces tensions raciales qui sont récurrentes. Et juste un chiffre quand même qui est assez frappant, en 2019, je crois que c'est le Washington Post qui donne ces chiffres, en 2019, 4 000 personnes ont été tuées par la police aux États-Unis, ce qui est déjà énorme, hein, mais dont 23% d'Afro-Américains, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population aux États-Unis.
Robert Namias, Donald Trump est un des éléments déclencheurs, à votre avis, de ces violences?
Indirectement, je dirais. Indirectement, on faisait allusion à l'instant au Covid et aux morts du Covid. Il se trouve qu'effectivement, la gestion extrêmement erratique de Trump dans l'épidémie depuis 2 mois a particulièrement touché la communauté noire. Et il n'est pas exclu qu'il y ait quand même un certain rapport entre l'explosion de violence et le fait que la mortalité dans le cadre de l'épidémie a touché les plus pauvres, les plus précaires, c'est-à-dire de très nombreuses communautés noires dans les grandes villes industrielles. Cela étant, tout ce qui a été dit est absolument exact. Le racisme anti-noir est endémique aux États-Unis, sauf que là, quand même, il est d'une violence absolument inouïe, qui rappelle plus les émeutes de Los Angeles des années 90, c'était en 1991, et ça fait quand même 30 ans. Il y a régulièrement, et de manière encore une fois très très répétitive, des émeutes Très souvent, elles sont localisées à une ville. Là, ce qui est quand même extraordinairement frappant et qui provoque une crise majeure aux États-Unis, c'est que ça s'est développé comme une traînée de poudre sur la quasi-totalité des grands centres urbains de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud des États-Unis. Alors Trump, effectivement, par sa personnalité, par encore une fois sa politique, a sans doute attisé, plus qu'apaisé. Mais enfin, il faut bien noter, et c'est un des grands échecs d'Obama, finalement, une des grandes déceptions, d'ailleurs, de la communauté noire d'Obama, président des États-Unis pendant 8 ans quand même, et qui, peut-être par volonté de ne pas apparaître comme un président communautariste, n'a rien fait finalement pour tenter d'endiguer ou en tous les cas de réduire ce racisme anti-noir qui est très très puissant et qui reste très puissant aux États-Unis.
Alors est-ce que ces violences fragilisent maintenant la présidence de Donald Trump, d'Aïk Oduy?
Sondage du jour hein, pour ABC News et Washington Post. Joe Biden, le rival démocrate, est crédité de 53% d'intention de vote à la présidentielle et 43% pour Donald Trump. Il y a 2 mois, l'écart n'était que de 2 points. Biden était en tête avec juste 49%. Donc ça fragilise, mais c'est l'ensemble qui fragilise. C'est aussi l'épidémie de Covid, les 100 000 morts, les millions de chômeurs et en plus ces émeutes raciales. Et lui, il va peut-être essayer de jouer de ces émeutes raciales pour justement se renforcer, rebondir en tout cas, en jouant l'ordre, tout simplement.
Parce que le sondage que vous citez a été effectué juste au début de la semaine, quoi.
Là, c'est le sondage qui est tel qu'il est sur le site internet, il est d'aujourd'hui.
Bon, il est aujourd'hui. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment symbolique de quelque chose, quoi.
Voilà, mais c'est l'ensemble qui fragilise. Et donc, moi, lui, il espère que le fait qu'il l'appelle à l'ordre, law and order, comme on dit, c'était le mot d'ordre de Nixon, ouais. C'était aussi le mot d'ordre...
En 68.
Voilà, le mot d'ordre où il y avait eu des émeutes également, et le mot d'ordre de Trump avant sa première campagne présidentielle. Donc il espère recliver son propre camp, notamment il espère profiter des émeutes et aussi des pillages qui succèdent aux émeutes. On a vu les images aussi, pour que ça choque éventuellement son électorat, mais c'est pas gagné, parce que je vais vous citer un autre sondage de YouGov, qui là date du 28 mai, où 78% des Américains auraient souhaité que le policier soit arrêté. Donc c'était avant qu'il soit accusé d'homicide involontaire. Il y avait 68% des républicains qui souhaitaient que ce policier soit arrêté. Et on le voit dans les images, il y a beaucoup de blancs aussi qui se mêlent aux afro-américains dans les manifestations. Et on a vu aujourd'hui aussi des images de policiers blancs qui mettent un genou à terre en hommage aux afro-américains, ouais, qui ont été victimes de violences policières, puisque c'est devenu un geste rituel. C'est un quarterback américain qui a instauré ce geste pour rendre hommage aux afro-américains victimes de violences policières.
Et Marcus Thuram, d'ailleurs, l'a fait cet après-midi, lui, en Allemagne. On revient à ce débat dans un instant. Il est 20h11, pardon pour ce léger retard. Claire Briguet-Lamarre, le Fil Info.
Des embrassades à bord de la Station Spatiale Internationale. Les 2 astronautes américains se sont installés dans l'ISS, où les attendaient un compatriote et 2 cosmonautes russes. C'est un vol historique, car les États-Unis n'ont pas envoyé de vol habité depuis 9 ans. C'est aussi le premier vol spatial confié à une société privée, SpaceX. Les soldats de la garde nationale déployés dans 15 États américains. Le pays sous tension absolue après la mort de George Floyd, cet afro-américain de 43 ans, pendant un contrôle de police. Donald Trump dénonce les agissements de ceux qu'il qualifie de gauchistes radicaux. En France, on compte 1319 malades atteints d'une forme sévère de Covid-19 hospitalisés en réanimation. C'est 6 de moins qu'hier, indique la Direction Générale de la Santé. Il faut qu'on ait des agents qui puissent faire respecter la règle. Les mots sur France Info de Florence Berthoux, la maire du 5e arrondissement de Paris. Dès mardi, on va pouvoir boire un verre en terrasse dans la capitale notamment. Si l'élu est pour un agrandissement des terrasses, il faut que les professionnels respectent les horaires et les emplacements prévus. Le préfet du Doubs condamne fermement l'incendie volontaire d'une voiture qui visait un député LREM de ce département, Éric Allauzet. Un groupe anarchiste revendique l'action. Les auteurs des faits se sont en tout cas trompés de véhicule. Ils ont mis le feu à la voiture d'un voisin de l'élu. Une cérémonie aura lieu jeudi à l'église parisienne de Saint-Germain-des-Prés en hommage à l'humoriste Guy Bedos. Il n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises, explique dans un tweet son fils Nicolas Bedos.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
À la suite de notre débat autour de ces violences et de ses conséquences aux États-Unis, François Hahnenwein, est-ce que pour vous ces violences fragilisent effectivement, comme nous l'expliquait Daïk Audouy il y a quelques instants, fragilisent la présidence de Donald Trump?
Ben, il y a différents moments, me semble-t-il. Là, effectivement, il y a une forte mobilisation devant le scandale que représente cette mort, et je pense que là, on voit les démocrates en tirer bénéfice, ça a été dit à travers les sondages cités. Mais je pense que, et ça a été dit aussi à l'instant, je pense que Donald Trump va essayer de jouer à la Nixon, la loi et l'ordre, contre ce qui est en train de se passer dans une trentaine de villes des États-Unis, des pillages, etc. Et pas seulement des protestations, mais aussi des pillages. Et ça, je pense que dans l'opinion américaine, même si de nombreux Américains sont indignés par ce qui s'est passé, je crois que Donald Trump va pouvoir activer ce levier, surtout si le phénomène où la protestation s'étend et si les formes violentes s'installent. Les démocrates ont condamné ces violences, comme Donald Trump, mais ça sera quand même un moment test si la paix civile ne revient pas dans les principales villes américaines qui sont aujourd'hui le proie non seulement à des protestations, mais aussi à des pillages. Mmh. Et là, l'opinion peut à nouveau basculer. La peur peut faire des élections, on l'a vu ailleurs qu'aux États-Unis, et ça a un effet certain. Et l'autre aspect des choses, et qui a été très bien dit tout à l'heure, la fragilité de Trump ne vient pas précisément de la politique à l'égard des Afro-Américains, parce que ça date pas d'hier que le camp républicain n'ait pas été formidablement progressiste sur ces questions-là, mais vient plutôt à cause de la crise et du chômage actuellement aux États-Unis. Et je pense que si Trump est battu, ce qui devient possible, il le sera principalement non pas à cause ou à la suite des émeutes ou des bavures policières, mais il le sera principalement parce que sa promesse de redresser l'économie américaine, de faire des États-Unis la grande puissance mondiale, risque de s'estomper parce que les difficultés économiques et le chômage sont de grande ampleur dans ce pays.
Mais pour en revenir donc à ces émeutes, Armelle Le Goff, est-ce que finalement cette mauvaise passe que traverse Donald Trump à travers cette situation peut lui bénéficier, comme l'expliquait un petit peu François Hahnenwein à l'instant?
C'est pas impossible, parce qu'en effet ces émeutes provoquent on sait que, enfin, ce qui a précédé l'élection de Trump, qui s'est quand même fait sur le fil en 2016 et contre toute attente, c'est le mouvement des Tea Party. Et les Tea Party, c'est quoi? C'est un mouvement plutôt réactionnaire, plutôt blanc, plutôt très ancré sur le milieu des États-Unis. Donc tout cet électorat, il est possible que ces images d'émeutes et puis la peur que cela peut provoquer provoque une adhésion d'autant plus forte à Donald Trump, dont on sait que son électorat est du coup plutôt conservateur, plutôt blanc, et qu'il porte aujourd'hui ce discours de la loi et l'ordre, en effet. Après, juste par rapport à l'élection de 2016, en 2016, Hillary Clinton provoque un rejet, même chez certains démocrates, qui du coup basculent dans le vote pour Donald Trump. Aujourd'hui, Joe Biden ne provoque pas de rejet. Alors certes, il semble plutôt vieux, plutôt usé, mais au moins, et puis il est peu visible actuellement, mais finalement, face à Donald Trump, ça peut être une force.
Il y a peut-être un côté rassurant de Joe Biden. Alors il y a donc cette Amérique qui saigne, et puis il y a une autre Amérique, cette Amérique qui triomphe. C'était hier soir à 21h22 précisément. Écoutez.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bottom dog.
L'Amérique a décollé 9 ans après l'envol de la dernière navette spatiale. Les États-Unis ont donc à nouveau renvoyer depuis leur territoire des hommes dans l'espace. Singularité, ce n'est pas la NASA qui est l'opérateur, mais un privé, SpaceX, de la société d'Elon Musk, un homme assez génial, paraît-il, je ne l'ai pas rencontré, dont en tout cas, on se moquait lorsqu'il s'est engagé dans ce projet. Robert Namias, est-ce que ce décollage, c'est aussi un succès des États-Unis, bien sûr, mais un succès du capitalisme, de l'entreprise individuelle?
Oui, c'est exactement ça. Moi, je ne suis même pas certain que ce... Alors, c'est un succès des Américains, évidemment, parce que ça représente un succès, avec d'ailleurs une série d'échecs pour Musk, hein, avant d'obtenir ce qu'il a obtenu hier, c'est-à-dire un envol réussi de sa fusée. Mais c'est un succès d'un monsieur qui s'appelle Elon Musk, en effet, patron de Tesla, patron de cette société qui prétend aujourd'hui, en quelque sorte, être un partenaire privilégié de la NASA. Pour la première fois, c'est un partenariat public-privé, finalement, aux États-Unis. Et c'est quelque chose de très important, mais qui n'est pas du tout une victoire américaine. Qui est, moi, je dirais deux choses. D'une part, c'est une victoire d'une forme de privatisation de la conquête spatiale à venir par rapport à ce que nous avons connu pendant 50 ans, qui était vraiment une conquête des États et une étatisation de la conquête spatiale, notamment américaine, évidemment, russe, et même d'une certaine manière, manière plus modeste, mais française, à travers Ariane. Là, on est vraiment, on a sauté un pas décisif, on a accepté de confier finalement à un capitaliste privé la possibilité de relancer la conquête spatiale, qui s'inscrit en plus dans un ensemble qui est un ensemble, au fond, qui est à rapprocher de ce que sont et de ce que font les GAFA. Les GAFA, Google, Facebook, Twitter et Apple sont aujourd'hui ceux qui travaillent sur l'homme de demain, ce qu'on appelle le transhumanisme d'une certaine manière, et sur les perspectives pour l'humanité de demain à 5 ans, 10 ans, 50 ans, et la conquête spatiale fait partie de cet ensemble-là. Mais on voit bien quelque chose d'absolument fondamental qui se passe en ce moment, c'est que ce travail sur l'homme de demain, sur l'humanité de demain, passe par des sociétés privées, capitalistes, et plus du tout par des États. Et moi, je retiens de ce qui se passe en ce moment, cette leçon fondamentale, c'est que non seulement il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a encore un bond en avant vers une forme de privatisation, en quelque sorte, de l'évolution de l'humanité.
On va voir si tout le monde est d'accord avec vous, Romain Damias. Mais d'abord, 20h20, le fil info, Claire Brigalamar.
L'image fait le tour des réseaux sociaux. Un genou posé à terre en hommage à George Floyd, celui de Marcus Thuram, footballeur de la Bundesliga, fils de Lilian Thuram. Les manifestations violentes secouent les États-Unis après la mort de cet Afro-Américain pendant un contrôle de police. Des centaines de manifestants ont défilé à Londres également. Ils demandent eux aussi justice pour George Floyd. C'était comme chevaucher un dragon vers le ciel. Les mots de l'un des astronautes américains à bord de la Station Spatiale Internationale. Un peu moins de 24 heures de voyage dans l'espace depuis la Floride dans la fusée à SpaceX et la capsule Dragon. Premier vol habité pour les Américains depuis 9 ans maintenant. La tendance se confirme en France. La Direction Générale de la Santé annonce 6 patients de moins hospitalisés en réanimation pour Covid-19. Les chiffres de la mortalité seront tous connus mardi, car les EHPAD ne communiquent leurs données qu'à partir de mardi, car nous sommes en week-end de Pentecôte. 100% des trains vont à nouveau rouler à partir du 24 juin pour acheter des billets dès la mi-juin. La restriction d'un siège sur deux est levée. Il est normal que progressivement, on relâche tout ce qu'on a pu mettre en place, estime sur France Info Jérôme Marty, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Et puis le parvis de Notre-Dame déconfiné, lui aussi. Plus d'un an après l'incendie de la cathédrale, les fidèles, les touristes peuvent à nouveau y déambuler. Le parvis qui était fermé à cause d'une pollution au plomb.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
L'espace est-il devenu une affaire privée, comme nous disait Robert Namias il y a quelques instants? Daï Kodoui, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je ne sais pas s'il faut opposer forcément le privé et le public sur cette affaire d'espace. Je ne suis pas un journaliste spatial, hein. Moi, je suis un journaliste politique. Mais si j'ai bien compris, il y a une sorte quand même de gentleman agreement.
Quand on est journaliste politique, on veut parler de tout, Daïk.
Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression que le privé va avoir les tâches un peu subalternes et déjà commerciales, c'est-à-dire taxi de l'espace. C'est ce qui a eu lieu un petit peu aujourd'hui, lancement des satellites. Et puis aux États, en tout cas à l'État américain, aux États-Unis, la géopolitique, la géostratégie, qui est le nouveau programme de marcher sur la Lune, de marcher sur Mars et d'exploiter éventuellement des richesses qui existeraient sur ces planètes et qui pourraient nous servir à nous. Alors là, on est dans le fantasme, on est vraiment dans la projection, mais les États se projettent déjà dans un combat, notamment avec la Chine et avec la Russie, et notamment avec la Chine d'ailleurs et les États-Unis, sur cette perspective-là. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est un vrai état d'esprit capitaliste. Ce qui peut être commercialisé, c'est fait par le privé. Et puis l'État se cherche des choses qui sont encore un peu moins certaines, et où il faut un peu plus d'argent qui ne soit pas certain. En tout cas, c'est le rôle de l'État d'avancer, de poursuivre la conquête spatiale qui est symbolique pour les Américains.
François Hahnenwein, ce décollage est un succès du capitalisme, de l'entreprise individuelle?
On peut dire deux choses. Je crois qu'il faut saluer la performance technique, l'exploit réussi par Elon Musk. C'est formidable ce qu'il est parvenu à faire. Mais je ne suis pas d'accord avec Dai à l'instant. C'est d'une certaine façon le début, et ça a été dit très bien auparavant, le début d'une privatisation de l'espace. Et dans cet espace privatisé, celui qui fait les choses, celui qui transporte, celui qui active, celui qui permet des avancées, décide de beaucoup de choses. Or, les États, jusqu'à présent, sont les garants de l'intérêt général et de la protection des communs, c'est-à-dire de ce qui appartient à l'ensemble de l'humanité. Le fait que cette privatisation se soit installée, c'est la crainte que demain, beaucoup d'activités dans l'espace soient organisées en fonction d'intérêts capitalistes et au détriment de l'intérêt de la communauté humaine. Et ça, je trouve ça très inquiétant, et d'une certaine façon, je ne vois pas dans cette dynamique à l'œuvre et ses succès ce qui arrêtera ce qui est en train de se passer. Et dans la relation entre les États, dans le partenariat avec le privé, il y a quelque chose qui est absolument fascinant. Ceux qui parlent d'aller sur Mars, c'est peut-être le président des États-Unis dans ses rêves, mais celui qui s'active, c'est Elon Musk.
Qui en parle aussi, d'aller sur Mars d'ailleurs.
Oui, mais lui, il s'active vraiment pour faire avancer un projet. Mmh. Et donc, ma conclusion, c'est, je pense qu'il est assez dangereux de laisser à l'initiative privée la main sur ce qu'on peut appeler les communs, l'espace partagé.
Donc cette Amérique-là vous inquiète également, François Hahnenwein?
C'est pas l'Amérique. Ouais. Le capitalisme a son dynamisme, mais je pense que c'est un débat qui traverse l'ensemble des sociétés. Il y a des communs où l'initiative privée n'a pas à prendre la main sur la gestion de ces espaces. Et regardez, on va prendre l'exemple de la forêt. La forêt, en France, on veille à ce qu'il y ait des investisseurs privés, mais la régulation se fait par une instance gouvernementale. Et c'est une très bonne chose.
Il y a beaucoup de forêts privées en France. Armel Le Goff, il faut s'inquiéter de cette privatisation de l'espace, pour reprendre cette expression de Robert Namias, de François Hahnenwein?
Je pense que c'est pas anodin, en effet. Le risque, c'est de, au-delà le risque, c'est de privatiser la recherche et de perdre la main sur certains pans de recherche. Et puis aussi, de banaliser, comme le disait François, des univers qui n'ont pas à l'être. SpaceX a par exemple l'intention de proposer des voyages privés à partir de 2021. Peut-être vers la Station Spatiale Internationale. Est-ce que c'est une bonne idée? On peut en douter. À l'inverse, ce que je vois comme un élément intéressant, c'est que SpaceX a, semble-t-il, fait baisser les prix dans le monde spatial et a par exemple obligé les Européens à inventer un nouveau lanceur Ariane 6, dont le premier vol est attendu en 2021. Ça, c'est intéressant. Mais le fait que des personnes privées s'intéressent effectivement à ces territoires qui sont à la fois très politiques et puis communs au monde entier, c'est pas anodin. Il y a Elon Musk aujourd'hui, Jeff Bezos qui se positionne. Effectivement, c'est ce que disait Robert Namias, les GAFA derrière qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est pas anodin.
Robert Namias, je sais que vous voulez rajouter un petit mot, pas plus d'une minute.
Un mot très bref pour compléter, mais effectivement, il faut donner des cas précis. Moi je suis quand même très frappé, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais on en parle parce qu'il y a le lancement de cette fusée aujourd'hui, Mais enfin, tout ce qui relève, encore une fois, de l'intelligence artificielle, quand vous prenez Zuckerberg, Facebook, qui prétend créer sa monnaie, là, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est carrément le fonctionnement
de l'État régalien,
du capitalisme. Ouais. Bon, Bezos, Twitter, qui travaille sur des vaccins, et Elon Musk, qui travaille effectivement sur l'espace, vous vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, les GAFA, alors, on se pose la question qui paraît presque naïve aujourd'hui, savoir comment on va les taxer, ouais. Mais on n'en est plus là. Les GAFA sont en train de prendre la main, et ça n'est pas du fantasme, ça n'est pas non plus de la science-fiction, c'est une réalité très concrète. Les GAFA sont en train de prendre la main sur l'avenir de l'humanité, moi je le pense vraiment. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour... Faut-il lutter d'abord? Comment faut-il le gérer? Mais c'est une réalité très concrète qui nous saute aux yeux aujourd'hui.
Allez, voilà pour SpaceX qui se retrouvera peut-être un jour dans un album d'Astérix, ce qui serait d'ailleurs, convenons-en, la vraie consécration. Les informés, vous restez bien en place, hein. On va laisser passer la météo, l'info. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de notre émission.
France Info, première plateforme d'information consultée au quotidien.
France Info, et tout est plus clair.
La météo, Jean-Michel Golinski.
Une fin de week-end de la Pentecôte, un peu plus mitigée en termes de temps sensible pour les régions de la moitié sud, avec l'installation progressive mais certaine d'un ciel souvent nébuleux, devenant plus instable passé la mi-journée, avec des ondées en plaine, parfois mêlées d'orages, surtout en montagne, tandis que plus haut, du nord de la Loire au Grand Est, maintient le soleil rayonnant, mais avec toujours ce vent d'est sensible l'après-midi, dans des températures déjà partout confortables en fin de nuit et des valeurs en hausse l'après-midi par rapport à aujourd'hui sur les régions les plus à l'est, mettant l'ensemble du pays entre 25 et 30 degrés en général dans l'intérieur et vers 22 ou 24 degrés sur les côtes de la Manche.
Jean-Michel Golinski, vous écoutez France Info, il est 20h30. On retrouve pour l'info François Lepage. Bonsoir François.
Bonsoir Olivier. À moins de 2 jours désormais de la phase 2 du déconfinement, cafés et restaurants sont dans les starting blocks pour accueillir leurs premiers clients depuis plus de 2 mois, avec des règles sanitaires très strictes. À Paris et en Ile-de-France, toujours en vigilance orange, seules les terrasses seront accessibles. Dans la capitale, elles pourront être étendues sur les trottoirs et sur certaines places de stationnement, à condition de respecter une charte très précise. Il faudra notamment que ces terrasses soient enlevées à 22h pour éviter les nuisances sonores pour les riverains. Par ailleurs, des piétonnisations ponctuelles de certaines rues sont organisées le week-end. Un net assouplissement à la SNCF pour la deuxième phase de ce déconfinement. Si le masque demeure obligatoire, dès mardi, s'en sera fini de la restriction d'un siège sur deux occupé dans les TGV et 100% des billets seront mis en vente à partir de la mi-juin. C'est ce que souhaitait la SNCF pour arriver à un seuil de rentabilité. Le secrétaire d'État au transport demande du coup à l'entreprise de maîtriser ses tarifs pendant l'été. Jean-Baptiste Djebari indique aussi que l'attestation employeur reste obligatoire au moins jusqu'au 22 juin pour prendre les transports en Île-de-France et aux heures de pointe. Les derniers chiffres du coronavirus ce soir, la baisse de la tension en réanimation continue de se confirmer avec 42 cas graves en moins, 31 décès supplémentaires en hôpital en 24 heures pour les chiffres en EHPAD, toujours pas de réactualisation. Il faudra attendre mardi. Au Royaume-Uni, la mortalité quotidienne, elle reste élevée, 113 décès au cours des dernières 24 heures. Le bilan dépasse les 38 400 sans mort dans le pays. La colère ne retombe pas aux États-Unis. Des scènes de violence qui se multiplient dans de nombreuses villes après le décès de George Floyd, cet Afro-Américain, lors de son arrestation à Minneapolis. Des heurts entre policiers et manifestants, mais aussi des scènes de pillage. Le corps d'un homme a été retrouvé aujourd'hui à Minneapolis, près d'une voiture calcinée. L'occasion cet après-midi d'un doublé d'un genou à terre après un but en hommage à George Floyd, celui de Marcus Thuram, l'attaquant français de Mönchengladbach, lors de la rencontre contre l'Union Berlin. Le fils du champion du monde français 98, Lilian Thuram, est lui-même engagé dans la lutte contre le racisme. Et puis mission réussie pour la société SpaceX. La capsule s'est amarrée comme prévu à la Station Spatiale Internationale cet après-midi. Les deux astronautes de la NASA sont maintenant à bord de l'ISS. Ils ont retrouvé les habitants actuels de la station, deux Russes et un Américain.
François Lepage pour l'info. Il est 20h32. L'heure donc de retrouver nos invités.
20h, 21h. France Info, les informés. Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie ce soir d'Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, Robert Namias, journaliste, écrivain, ancien directeur de l'information de TF1, Daïko Duy, journaliste à France Info TV, François Hammenwein, rédacteur en chef à La Croix. Alors on parlait de l'espace tout à l'heure, revenons sur Terre et même un peu ras des pâquerettes avec la politique. C'est Daïko Duy qui va être content. Et cette question, Emmanuel Macron a-t-il encore une majorité à l'Assemblée? Le groupe En Marche prend l'eau de toutes parts, l'alliance de Gérard Collomb à Lyon avec la droite résonne comme une claque finalement adressée à Emmanuel Macron, sans parler des Nicolas Hulot, Cédric Villani qui ont repris leur liberté, qui sont autant de cailloux dans la chaussure du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe en Macronie, Daïko Duy?
Ben, tout le monde veut à la fois prendre sa mise et puis prendre la mise prochaine pour la prochaine présidentielle. Il y a des perspectives de remaniement, donc tout ce petit monde s'agit. Tout le monde dit qu'il est fidèle, hein, Emmanuel Macron, parce qu'aussi bien le groupe de Mathieu Orphelin, de Cédric Villani, ne dit pas qu'il est clairement dans la majorité, mais il ne dit pas qu'il est dans l'opposition. Donc voilà, il y a aussi, je vous rappelle, un groupe de droite qui s'est constitué, de droite pro-Macron, avec en son sein donc des membres d'Agir, c'est le parti de Franck Riester, le ministre de la Culture, mais avec d'anciens marcheurs qui l'ont rejoint. Donc tout le monde se réclame quand même d'Emmanuel Macron et pas forcément de la majorité, mais chacun veut faire entendre son point de vue pour peser dans les arbitrages qui vont être faits par Emmanuel Macron et peut-être par Édouard Philippe ou par quelqu'un d'autre, on verra, mais les arbitrages qui sont faits sur le fameux monde d'après. Donc voilà, chacun se place pour ce monde d'après, pour placer à la fois ses idées, pour peser sur ses idées, et on pèse bien, on permet à ses idées de bien peser quand on est quelquefois au cœur de la machine, donc dans un futur gouvernement s'il y a remaniement. Donc chacun, voilà, avance ses pions. C'est pour ça que ça s'agite beaucoup.
François Hammenwein, ça veut dire encore quelque chose, cette République En Marche qui semble écartelée de toutes parts? François Hammenwein, est-ce que vous êtes là? On a perdu François Hammenwein, mais vous en faites pas, on va le retrouver. Armelle Le Goff, bah, je vous passe la parole. Même question.
J'ai pas entendu la question, pardon.
Ah oui, alors il faut être attentive, Armelle Le Goff. Je demandais si finalement ça rimait encore à quelque chose, si la République En Marche représentait encore quelque chose, alors qu'elle est tiraillée de toutes parts et qu'elle prend l'eau, a priori.
Bah oui, c'est frappant cette absence de cohésion et de logiciel commun en période de crise, notamment on l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Ça se voit encore actuellement alors qu'on a traversé une crise sanitaire inédite et puis qu'on rentre quand même dans une crise économique qui risque d'être assez dure. On voit qu'il y a plein de débats au sein de l'Assemblée nationale, au sein du parti. Entre eux, par exemple, sur le plan économique, les partisans d'un assouplissement des règles pour permettre à l'économie de repartir plus vite. Une taxation, par exemple, sur les hauts revenus, qui est défendue par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et qui est un macroniste historique. Et puis, au sein du gouvernement, on a dit très clairement que cette option n'était pas du tout privilégiée. Donc, du coup, qui arbitre, qui tranche? Eh bien, c'est Emmanuel Macron. Alors, pendant le confinement, c'était avec l'appui d'une communauté scientifique. On a maintenant un comité d'experts en économie. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un président assez seul qui n'a pas réussi à créer une cohésion au sein de son mouvement.
EM En Marche, c'est redevenu Emmanuel Macron tout seul, Robert Namias?
Tout seul, je ne sais pas. La question de la majorité est une question, évidemment, qui a toujours agité la Ve République. Dans la quasi-totalité des cas, les présidents ont eu une majorité absolue, mais ça n'avait pas toujours beaucoup de sens, et parfois il y a eu des majorités relatives qui ont permis de réformer beaucoup plus que des majorités absolues. Ça a été le cas notamment de Rocard, même s'il a réformé à coup de 49-3, il a quand même beaucoup, beaucoup réformé. Moi je pense que la question n'est pas celle de la politique politicienne qui s'exprime à travers une majorité parlementaire, parce que le nombre de députés qui approuvent la politique d'Emmanuel Macron ou les projets d'Emmanuel Macron est majoritaire à l'Assemblée, vraisemblablement encore aujourd'hui, à et travers de toute cette façon, nouvelle avec nébuleuse le modèle, qui s'est créée. Non, ce qui est plus important, je crois, pour Emmanuel Macron, et ce qui est beaucoup plus incertain, alors, c'est, si j'ose dire, une majorité pour quoi faire. Parce que qu'il ait suffisamment de députés pour voter ce qu'il veut que l'on vote, très bien, mais que veut-il que l'on vote? Quelle perspective pour la fin du quinquennat? En gros, il reste un an et demi utile, pas plus. Et comment il rebondit à la sortie de cette crise, c'est le premier point. Et au fond, sa traduction parlementaire est de peu d'importance. Et surtout derrière, parce que la présidentielle est déjà là, quel projet? La question n'est plus de savoir s'il aura une majorité parlementaire, car encore une fois, je pense qu'il aura toujours assez de députés pour voter ses textes. La question est de savoir s'il aura une majorité populaire, non seulement dans un premier tour, mais surtout dans un deuxième tour, pour éventuellement gagner la présidentielle de 2022. Ce sont les questions qui se posent dès aujourd'hui. Et pour ça, il faudrait être au clair avec le projet, avec les perspectives proposées par Emmanuel Macron. Et c'est ça qui n'est pas clair actuellement.
Ça veut dire qu'il
ne s'agit pas de savoir si c'est droite ou gauche. Il s'agit de savoir ce que veut proposer Macron.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne politique, Daïk Oudoui?
On est en attente, pour confirmer ce que dit Robert, on est en attente d'une ligne politique. Et donc chacun, encore une fois, avance ses pions. Les gens plutôt à la gauche d'En Marche disent « Ah, c'est nous la ligne politique qu'il faut appliquer ». Donc on se met un petit peu à l'extérieur pour montrer qu'on existe. Et puis pareil pour ceux qui sont plutôt de droite, ils disent « On se met un petit peu à l'extérieur pour montrer qu'on existe et pour qu'on pèse ». Donc en effet, il y aura toujours une majorité pour Emmanuel Macron, a priori, parce qu'il pourra toujours jouer sur un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Mais voilà, chacun veut attendre de savoir quelle va être l'inflexion, s'il y en a une dans
mais
ce fameux...
Évidemment, Daïk, les institutions sont solides, quoi. La Ve République a déjà fait ses preuves, mais c'est vrai qu'on se pose des questions quand même sur la tenue de ce, et la conduite du pays. Tout le monde est dans le flou le plus total.
Ah mais complètement, bah, tout le monde attend d'être déconfiné également en politique, donc on est dans cette zone un petit peu de libération la mardi puisqu'on va pouvoir aller sur les terrasses, et ben c'est un déconfinement de politique aussi avec cette émergence, ce bouillonnement au sein de la majorité. Il y a cette forme de déconfinement, c'est-à-dire qu'on sort du bois et on va essayer de peser dans les débats. On retrouve quelque part les débuts d'En Marche où chacun était... participer à des débats, on faisait des grandes études, qu'est-ce que veulent les Français, on pouvait donc, tout le monde pouvait s'y retrouver dans ce bouillonnement, et quelque part, voilà, c'est aussi, il faut comprendre ça, En Marche, c'est dans leur psychologie globale de fonctionnement, et ils retrouvent un petit peu de ce bouillonnement originel, dans ce bouillonnement tel qu'il existe maintenant, avec des arrière-pensées politiques qui sont aussi très présentes.
On me dit qu'on a retrouvé François Hernandwein. Vous êtes là, François Hernandwein. Il n'est pas là. Eh bien, écoutez, de toute façon, il est 20h40. On va donc laisser passer le fil info en espérant et en priant les voix du ciel que le rédacteur en chef à La Croix soit à nouveau parmi nous. François Lepage pour le fil info.
Des milliers de policiers et de soldats patrouillent ce soir dans les grandes villes américaines au lendemain d'une nouvelle nuit de manifestations et même d'émeutes, 5 jours après la mort de George Floyd, cet afro-américain violemment plaqué au sol par un policier lors de son arrestation à Minneapolis. La police anti-émeute a chargé la foule hier soir dans la ville et le corps d'un homme a été retrouvé ce matin près d'une voiture brûlée. Vers un nouveau déconfinement dans les transports, à partir de la mi-juin, la SNCF commercialisera 100% de son offre et dès après-demain, eh bien, il n'y aura plus la restriction d'un siège sur deux occupés. Renault n'a pas l'intention de fermer le site de Maubeuge dans le Nord, mais il pourrait en revanche aider celui de Caudan dans le Morbihan, précision du président du groupe automobile aujourd'hui, Renault qui a annoncé 4600 suppressions de postes en France, 15000 dans le monde. Dernière tractation avant le dépôt des listes mardi pour les municipales. À Lille, on se dirige vers une triangulaire. Le PS avec Martine Aubry et les Verts n'ont pas trouvé d'accord alors qu'ils sont alliés dans l'actuelle mandature. À Paris, en revanche, les socialistes et les écologistes discutent toujours. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, David Belliard, demande à être associé à tous les échelons de la future mandature en cas de victoire d'Anne Hidalgo. La mort de la cantatrice Maddy Mesplé, elle avait 89 ans, une voix de l'opéra des années 50 à la fin 70. Sa passion pour la musique l'aura conduite à aborder tous les répertoires, opéra mais aussi opérette et musique contemporaine.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Quel avenir pour En Marche et pour Emmanuel Macron? On est en pleine politique politicienne dans Les Informés. Ce soir, un mot peut-être de la nomination de Pierre Moscovici au poste de premier président de la Cour des comptes. Comment faut-il lire cette décision? Comme une bonne manière faite aux socialistes, Armelle Le Goff?
Oui, sans doute, hein, à quelques mois de l'élection, placer à la tête d'une institution comme la Cour des comptes une figure de gauche, c'est un gage vis-à-vis de la gauche. Après, si Pierre Moscovici se place dans le sillage de Didier Migaud, on ne sera pas dans un positionnement de l'institution très partisan, hein, bien au contraire. Didier Migaud a souvent été assez ferme, sur notamment par exemple sur les dépenses de santé, où on a vu ces dernières semaines à quel point les investissements avaient parfois été finalement en dessous de ce qu'ils auraient dû être, et donc le maintien de services de santé efficaces n'était pas vain.
Daï Kodoui.
Il ne faut pas exagérer l'idée que l'opinion publique a de Pierre Moscovici. Je ne sais pas s'il a beaucoup d'idées sur lui. Je ne pense pas qu'il soit immédiatement identifié au Parti Socialiste comme peut l'être Ségolène Royal.
Il a été ministre de l'économie et des finances sous François Hollande, puis commissaire européen. On l'a quand même pas mal vu.
Oui, pour les gens qui suivent l'info, mais je parle vraiment pour l'opinion publique. Je suis pas sûr que ça embarrasse beaucoup le PS, parce qu'il avait quand même coupé les ponts un petit peu depuis qu'il était commissaire européen, quand même, avec le Parti Socialiste, en tout cas, non pas avec les idées, mais en tout cas avec les instances. Donc je pense pas que ça embarrasse tellement le PS. Je pense qu'au contraire, Emmanuel Macron prend des risques en le nommant, parce qu'on va l'accuser de prendre des gens du vieux monde, entre guillemets. Hein. Pierre Moscovici, il est très européen aussi, hein. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à Emmanuel Macron. Ils sont sur la même ligne. Et là aussi, ça va être reproché notamment par les adversaires du Rassemblement National d'Emmanuel Macron, en disant qu'il nomme quelqu'un de très européen, qui va donc appliquer les mêmes règles de rigueur budgétaire comme il le faisait quand il était commissaire européen. Il va le faire la même chose à la Cour des comptes. Donc je pense que, l'équilibre entre les avantages ou les inconvénients de nommer Pierre Moscovici, le gain politique me semble très faible. En revanche, l'exposition et les critiques vont peut-être l'emporter de mon point de vue.
François Hanenwein, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, je suis revenu.
Quelle bonne nouvelle de vous avoir fait. Les informés n'ont plus la même saveur sans vous. Donc je vous explique, on débat là depuis un quart d'heure.
J'ai compris.
La situation d'Emmanuel Macron sur, peut-être, vous pouvez revenir sur la situation d'En Marche et sur le cas Moscovici, cette nomination de premier président à la Cour des comptes.
Écoutez, moi je pense que Pierre Moscovici a montré qu'il était un bon technicien, il connaît l'Europe. Or actuellement, les budgets, les finances européennes françaises vont être très tributaires des discussions européennes, etc. Et je pense que l'expertise européenne de Pierre Moscovici pèsera beaucoup là où il est pour améliorer les décisions. Je pense que techniquement c'est un gain, politiquement il a raison, c'est pas évident.
Daïk a
évidemment raison. C'est pas du tout évident que le gain politique soit manifeste. D'ailleurs, Pierre Moscovici s'était pas distingué par une rigueur idéologique à gauche marquante pendant toute sa carrière. Donc, je pense que sur le plan technique, c'est une très bonne nouvelle.
Robert Namias, vous êtes d'accord avec François et Daï qui nous disent finalement que Pierre Moscovici, ce n'est pas une personnalité de premier plan et que c'est une nomination plus technique que politique?
C'est pas très agréable pour Moscovici
Ils sont pas très agréables, les informés.
Ils l'ont pas dit vraiment comme ça. Disons qu'il est moins connu que d'autres.
C'est moi qui résume comme ça, vous voyez.
Oui. Je note une chose qui n'a pas été relevée, c'est qu'au fond, les deux grandes institutions de la cinquième, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, seront toutes deux présidées, dirigées, animées par deux anciens socialistes. Bon, que n'aurait-on dit effectivement à propos de Macron s'il avait été chercher quelqu'un à droite? Quant à dire que c'est quelqu'un d'ancien monde, mais enfin d'abord, il est clair et il est évident qu'il n'y a pas d'ancien monde et de nouveau monde, pas plus que un monde d'après qui suivrait le monde d'avant l'épidémie du Covid. Donc, la vérité, c'est qu'il s'agit de savoir si c'est un bon technicien, effectivement. avec quand même une question sur l'orientation de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, notamment avec Didier Migaud, il n'y a eu que des grands classiques qui ont dirigé la Cour des comptes, en particulier évidemment Philippe Séguin, mais ouais. Didier Migaud, on a pu aussi reprocher à cette Cour des comptes-là de s'immiscer un peu dans la pratique quotidienne des institutions dont il parle. Et non, la Cour des comptes au départ, c'est d'abord de surveiller les comptes, c'est-à-dire de voir si c'est conforme soit à des plans préétablis, soit à la bonne marge de l'économie de tel ou tel secteur. Et la Cour des comptes a un peu dérivé depuis quelques années, alors peut-être est-ce une bonne chose, je n'en sais rien, mais c'est un constat vers des espèces de... C'est devenu un grand conseil qui donne des conseils, finalement, sur la façon dont il faudrait conduire la politique de santé, la politique industrielle,
et je sens que pour vous, c'est pas une bonne chose, économique.
Hein. Pardon ?
Et je sens que pour vous, c'est pas une bonne chose.
Ben, c'est-à-dire que on s'éloigne de la vocation de cette institution, mais on peut la faire évoluer. Et je pense que Moscovici va plutôt revenir à ce mode de fonctionnement-là. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons du choix de Macron, parce que d'une certaine manière, de ce point de vue-là, c'est beaucoup moins gênant pour le pouvoir.
Allez, on passe à notre dernier thème, si vous le voulez bien. Faut-il y voir d'ailleurs là la vitalité de la politique française ou un signe de sa déliquescence ? C'est en tout cas un des faits politiques de cette semaine. Jean-Marie Bigard a déclaré sur BFM TV qu'il pourrait être intéressé par une candidature à la présidentielle, candidature pour représenter le peuple hors des partis politiques, a-t-il dit. Candidature qui donc a fait le buzz depuis mercredi, et tout cela amuse et énerve beaucoup l'humoriste. Écoutez.
Je suis très content en fait d'avoir foutu un peu le bordel, parce que pour qu'autant de gens s'animent sur l'idée que je puisse un jour dire « Ah ouais, ça m'intéresserait peut-être de savoir quel pourcentage je ferais si je me présentais à la présidence en 2022 ». Eh bien, ça a tellement énervé tout le monde que beaucoup se sont démasqués.
Bordel, Codoui, vous n'allez pas me dire que comme Pierre Moscovici, Jean-Marie Bigard est un inconnu. Lui, il a quand même un peu de notoriété.
Oui, mais je veux dire qu'il a beaucoup de notoriété, mais il a un peu de moins succès qu'avant. Et comme vous êtes des gens polis et vous n'avez pas monté la suite de la vidéo qui est sur Instagram où il dit qu'il a démasqué des connards. Et je ne sais pas ce que c'est, les connards, dans son esprit, ceux qui considèrent que ce n'est pas sérieux, justement, cette candidature. Parce qu'il ajoute dans cette vidéo...
Oui, alors est-ce que vous faites partie des connards, quoi, c'est ça ?
Ben, oui, j'ai tendance à faire partie des connards. Mais lui, il dit, si on pense que ce n'est pas intéressant qu'un mec digne et honnête, c'est-à-dire lui-même, s'intéresse un petit peu au malheur des gens dans son pays, à ce moment-là, je n'ai plus qu'à disparaître. En clair, si on critique Jean-Marie Bigard, eh ben, on est quelqu'un de méchant qui critiquons quelqu'un qui est généreux parce qu'il cite, dans cette même vidéo, toutes les actions caritatives qu'il fait. Donc, voilà, c'est injouable. Si je vous dis que ce n'est pas sérieux, on va dire c'est du mépris envers Bigard parce que toi t'es un journaliste politique, tu traites avec les puissants, etc., que je déjeune avec eux, tananana, et donc
et que vous faites partie des informés en plus.
Jean-Marie Bigard. Donc vous voyez, c'est injouable pour moi.
Bon, eh ben écoutez, on va voir si, pardon, il y a d'autres connards parmi les informés ce soir, mais on va d'abord laisser passer le fil info. Il est 20h50. Lui est un type extrêmement sérieux. C'est François Lepage.
Mission réussie pour la société SpaceX au lendemain du lancement de la fusée hier en Floride. La capsule Dragon s'est amarrée comme prévu à la Station Spatiale Internationale cet après-midi. Et après une longue procédure de près de 3 heures, eh bien, les deux astronautes de la NASA ont retrouvé ce soir les habitants actuels de la station, deux Russes et un Américain. La colère ne retombe pas aux États-Unis. Les scènes de violence se multiplient dans de nombreuses villes après le décès de George Floyd, cet Afro-Américain, lors de son arrestation à Minneapolis. Des heurts entre policiers et manifestants, mais aussi des scènes de pillage. Le corps d'un homme a été retrouvé à Minneapolis aujourd'hui près d'une voiture calcinée. L'occasion en tout cas cet après-midi d'un genou à terre après un but en hommage à George Floyd, celui de Marcus Thuram, l'attaquant français de Mönchengladbach lors de la rencontre contre l'Union Berlin. Le fils du champion du monde français 98, Lilian Thuram, est lui-même engagé dans la lutte contre le racisme. Les derniers chiffres du coronavirus en France, la baisse de la tension en réanimation continue de se confirmer, 42 cas graves en moins, 31 décès supplémentaires en hôpital en 24 heures pour les chiffres en EHPAD. Toujours pas de réactualisation, il faudra attendre mardi. Le pape, lui, se dit préoccupé pour les peuples indigènes d'Amazonie, particulièrement vulnérables face à la pandémie. Inquiétude partagée lors de sa prière du dimanche de Pentecôte, place Saint-Pierre. Au Brésil, le coronavirus a tué près de 29 000 personnes et la pandémie continue de s'étendre dans le pays.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Et on débat dans ce dernier thème des informés ce soir de cette déclaration de candidature, c'est peut-être pas ça, mais enfin en tout cas d'intérêt de Jean-Marie Bigard pour la présidentielle de 2022. Il faut rappeler qu'il y a peut-être une petite tradition française en la matière d'humoristes s'intéressant à la politique. On se souvient évidemment de Coluche en 1980. Vous souvenez-vous de Marcel Barbu en 1965, peut-être Robert Namias, hein, il se présentait comme le candidat des chiens battus. Armelle Le Goff, vous croyez, vous, en cette possible candidature de Jean-Marie Bigard ?
Non, pas du tout. Heureusement, les institutions de la cinquième ont trop de garde-fous pour permettre à des trublions de s'aventurer dans ce genre, d'aller jusqu'au bout, en fait, de ce genre
de déclaration. Vous parlez quoi de l'obligation d'avoir 500 signatures? Vous pensez qu'ils ne pourraient pas les avoir?
Notamment, mais il faut aussi, oui, bien sûr, mais il faut aussi une connaissance des institutions, des relais au sein du pouvoir. Enfin, finalement, en fait, on voit que ces candidatures, elles restent toujours à l'état juste de projet et puis que ça se concrétise jamais. En revanche, ce qui est frappant avec cette déclaration, c'est que elle se greffe sur une atmosphère anti-système qui interroge depuis. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnalités en ce moment comme la personnalité, on est obligé d'y penser, du professeur Raoult à Marseille, qui fait quand même des audiences sur YouTube qui sont assez impressionnantes.
Ah oui, Didier Raoult, Jean-Marie Bigard, même combat pour vous.
Non, je ne les mets pas sur le même plan, mais je trouve que c'est une atmosphère anti-système qui est assez parlante, en fait. On a ces personnalités comme ça qui émergent, qui revendiquent le vrai discours, la vérité, le fait de parler aux gens et de leur parler vraiment. Et puis, alors là, on voit que Emmanuel Macron, les rencontres, les écoutes, éventuellement les appels, il a sans doute besoin de capteurs, hein. Je sais pas à quel point ces gens sont représentatifs de quoi que ce soit, mais en tout cas, ils existent, ils émergent, mais je pense qu'il n'y a pas trop de danger quand même, hein, que ça aille plus loin que des promesses sur BFM TV.
Robert Namias, qu'est-ce que dit finalement cette candidature potentielle de Jean-Marie Bigard de la vie politique française aujourd'hui?
Elle dit plusieurs choses, et elle dit surtout sur la fabrique de l'info aujourd'hui, et puis éventuellement sur l'exercice du pouvoir, la fabrique de l'info. D'un mot, ça n'est pas sérieux, la candidature Bigard, ça ne peut pas l'être. Et si on fait de l'info et qu'on donne une info, on ne pose pas la question à Bigard de savoir s'il va être candidat à la présidentielle. Là, on la fabrique, l'info. Et après, on fait du buzz autour d'une info qui a été entièrement fabriquée. Mmh. Donc moi, ça me pose beaucoup de questions sur la façon dont on fabrique l'info et dont on la crée. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur l'exercice du pouvoir, moi, je m'interroge beaucoup sur un président de la République qui prend son téléphone et qui appelle quelqu'un qui a traité ses ministres de tocards. Mmh. Car, en fait, le coup de téléphone a eu lieu après que, dans une vidéo, Bigard ait traité le gouvernement de tocards.
Coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard, hein, précisons-le.
Voilà. Non, mais c'est ouais. Son avis, etc., c'est très bien. Mais est-ce que le président de la République doit prendre son téléphone pour dialoguer avec quelqu'un qui traite le gouvernement de tocards sans aucune responsabilité ni représentativité? Et surtout, je vous le rappelle quand même, quelqu'un qui, une fois le téléphone raccroché, a dit... c'est formidable cette histoire, parce que je lui chie dessus et il m'appelle au téléphone. Mmh. Bon, moi je me pose beaucoup de questions sur, encore une fois, l'exercice du pouvoir à travers cette affaire. Et je me dis qu'on devrait vite l'oublier.
François Hennewein.
C'est très frappant et ça participe de l'ambiance délétère autour de la politique. Mais moi, ouais, je voudrais m'attacher simplement au discours du candidat Jean-Marie Bigard. J'ai regardé de près ce qu'il avait dit. Il avait dit « je veux bien être candidat si je peux être utile ». Alors la question qui suit, c'est à quoi peut-il être utile? Et il avoue en continuant qu'il n'a aucune compétence. Si on n'a aucune compétence et s'il n'est pas manifeste qu'on peut être utile à quelque chose, quel est le sens de cette déclaration de candidature? Et puis je voudrais rappeler au passage qu'il a déjà été candidat au municipal à Paris, 0,48%, sur la liste qui le portait, c'est quand même pas un score faramineux. Et je pense que l'autre aspect des choses profondément scandaleux, c'est quand quelqu'un comme Jean-Marie Bigard, à coup de grossièreté et de vulgarité, prétend représenter le peuple. Le peuple n'est ni grossier ni vulgaire, le peuple a des rêves, le peuple a des désirs, le peuple ne s'exprime pas comme Jean-Marie Bigard s'exprime.
Daï Cauduy, cette candidature ne serait pas une candidature de témoignage, mais de colère. Elle résonne quand même, évidemment, dans le prolongement des Gilets jaunes. Armel Le Goff nous le disait, d'ailleurs.
Oui, clairement, hein, il est dans cette expression-là qui peut avoir des succès ailleurs, parce qu'on parle de Jean-Marie Bigard, on parlait des municipales, de son faible score à Paris. On peut noter qu'à Montpellier, un autre comique, Rémi Gaillard, qui fait des vidéos aussi et qui défend la cause des animaux écologistes, a fait un score de 8%. Donc, et lui aussi, il a un langage assez coloré, ouvert, pour pas dire vulgaire. Et oui, donc ça va dans cette poussée-là. Mais on a vu aussi que les Gilets jaunes, la traduction électorale a été très faible, y compris aux élections européennes, ou les Gilets jaunes, ou certains qui se sont présentés aux municipales. Donc il y a un décalage quand même entre des gens qui peuvent dire « Ah ouais, il a raison Jean-Marie Bigard dans ses vidéos, et puis il nous fait marrer, il est con et tout ça, il nous fait bien marrer », et d'aller quand même voter pour lui. Il y a quand même une immense différence. Et
pas d'expression dans les urnes, mais en même temps, une immense abstention. Donc bon, voilà.
Oui, en tout cas, il y a peut-être un candidat qui captera cette colère-là, mais qui aura un passé politique plus approfondi. Et je pense peut-être à François Ruffin, qui est un autre candidat qui s'est déclaré potentiellement cette semaine, le député de la France Insoumise, qui utilise les réseaux sociaux comme Jean-Marie Bigard, avec un autre vocabulaire et avec beaucoup de différences dans le fond. Évidemment, il y a du fond. C'est François Ruffin, mais c'est lui qui peut capter peut-être là cette colère-là, et lui, il a un passé politique.
Eh bien, merci en tout cas à vous quatre, les informés, Armel Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, Robert Namiast, journaliste, Daï Cauduy, journaliste à France Info TV, François Arnenwein, rédacteur en chef à La Croix. Je ne vous demande pas la une de La Croix de demain, puisque demain, c'est la Pentecôte.